Place Info.
Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
On va évoquer évidemment votre candidature à la mairie de Paris dans quelques instants, mais d'abord les manifestations des étudiants, les hôpitaux, les fonctionnaires, les cheminots très prochainement. Est-ce que le climat social vous inquiète en ce moment en France ?
Ça date pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Ça fait quand même un peu plus d'un an qu'il y a des signaux d'une France totalement fracturée. Et aujourd'hui, entre la grève des hôpitaux, les problèmes étudiants, ce sont des signes supplémentaires à cette tension qui s'accroît et qui s'aggrave dans notre pays. Vous savez, je constatais, parce qu'on nous disait le chômage se réduit, la croissance repart, on est plutôt préservé dans le cadre de la zone euro, en disant finalement le pays va mieux. Mais est-ce que les Français le ressentent? Je le crois pas. Moi, ça me rappelle toujours, je renvoie toujours à cette période. Vous vous souvenez l'époque Lionel Jospin? On avait une
croissance
importante.
La croissance était là, le chômage baissait, et pourtant le 21 avril à la fin.
Et puis on a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Et donc, et moi je me souviens, on avait un sujet de cagnotte. Il y avait tellement de croissance, on savait plus quoi faire de l'argent qui arrivait. Et je me souviens, il y avait des débats où devons-nous mettre ces excédents. Et puis ça s'est mal terminé. Et d'ailleurs, depuis cette période, on a du mal, y compris politiquement, à redresser la pente, à redonner des perspectives, à redonner de l'espoir et une vision à notre pays et aux Français.
Vous diriez qu'il y a une colère sociale aujourd'hui qui menace d'exploser ?
Il y a une colère tout court. Vous savez, quand je vois le drame qui est arrivé avec l'étudiant à Lyon, aujourd'hui, il y a une précarité étudiante, c'est vrai, mais à cela s'ajoute aussi un manque de perspective, parce que sur cet étudiant, je crois qu'il était boursier, il avait une chambre au Crous, donc il était inséré en termes d'étudiants. Simplement, je pense aussi qu'il y a un problème d'encadrement et de suivi des étudiants. Nous avons plus de 2 millions d'étudiants aujourd'hui en France, et au-delà de la précarité matérielle, financière, il y a une précarité liée au manque de perspectives et de débouchés pour de nombreux étudiants. Et moi, je trouve que quand il y a les étudiants qui se mobilisent, c'est toujours révélateur d'un malaise profond dans notre pays. Et donc, moi, j'ai peur que tous ces départs de petits feux se terminent à un moment donné par un embrasement.
Par une vraie explosion sociale, à votre
avis, par un véritable embrasement. Enfin, regardez, il y a eu des mesures annoncées, des actions qui ont été menées depuis un an en faveur des Gilets jaunes. Est-ce que ça a calmé pour autant cette grogne et cette colère et ce désespoir? Non, ça ne l'a pas calmé.
Et vous disiez un instant, Rachida Dati, que ces problèmes sociaux, cette tension sociale qui s'accumule, ça ne date pas d'hier. Est-ce que le gouvernement doit rompre peut-être avec une certaine logique comptable, qui est la sienne comme celle de certains de ses prédécesseurs, notamment pour remédier à la précarité étudiante ou pour sauver l'hôpital public? Est-ce qu'il faut accepter de dépenser davantage et
Je crois que le gouvernement a déjà
fait l'échec.
C'est insuffisant. Le problème de l'hôpital, alors c'est facile à dire ce que je vais dire. Moi j'ai été soignante pendant des années. C'est-à-dire que justement en tant qu'étudiante, moi j'ai été effectivement, j'ai travaillé pendant toutes mes études et notamment j'ai été étudiante et soignante à plein temps pendant de très nombreuses années. J'étais soignante de nuit, de jour. D'ailleurs, ce qui a aussi beaucoup déstabilisé le fonctionnement de l'hôpital, ça a été beaucoup les 35 heures qu'on n'a jamais vraiment traité. Le problème de l'hôpital, si on ne réforme pas profondément le mode d'organisation de l'hôpital, on s'en sortira pas. C'est qu'aujourd'hui, les enjeux, ce qu'on met sur la table, ne résout pas le problème. Il faudrait réformer véritablement l'organisation de l'hôpital en lien avec les enjeux de la médecine d'aujourd'hui. On n'a plus les mêmes enjeux de médecine qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, l'hôpital, comment est-il financé ? Il est financé en fonction du nombre d'actes. Et moi, je pense que, et d'ailleurs, le nombre d'actes, souvent dénoncé par des médecins. Là, récemment, il y a des médecins qui disent qu'il faudrait peut-être faire la chasse
aux actes. Le gouvernement a dit qu'il souhaitait revenir sur cette politique.
Il faudrait faire la chasse aux actes inutiles.
Là aussi, c'est une logique comptable, une logique de rentabilité.
Oui, c'est une logique de rentabilité, mais c'est-à-dire que sans revoir l'organisation. Donc, ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur une organisation qui, de toute façon, n'est pas viable à terme. Donc, il faut revoir l'organisation de l'hôpital. Il faut revoir l'organisation de l'hôpital en lien avec les enjeux de la médecine. De la même manière, mais enfin, on a tous notre part de responsabilité, ce qu'on appelle le PLFSS, enfin, le projet de loi financement de la sécurité sociale. En fait, l'objectif, c'est toujours un affichage de réduction de déficit. Mais on voit bien que on fait de la réduction de déficit sans pour autant améliorer la santé en France, mais la santé avec l'accès aux soins. Si je prends juste, pardonnez-moi, je vais revenir deux secondes par rapport à Paris. Vous savez que dans certaines zones, dans certains endroits à Paris, c'est à peu près 40% des Parisiens, c'est selon l'ARS. Paris est considéré comme un désert médical. Et donc, il y a bien un problème à l'exercice de la médecine, à l'accès aux soins en France. Et est-ce que tous les chèques ont été mis sur la table jusqu'à maintenant, est-ce que ça a été résolu? Non. Est-ce que ça va se résoudre? Non. La preuve, c'est qu'on a encore un mouvement aujourd'hui.
Question à l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati. Que diriez-vous aujourd'hui à une femme qui est victime de violences conjugales et qui n'ose pas ou qui ne peut pas aller porter plainte de peur notamment de représailles?
Alors, c'est un sujet sur lequel je suis engagée depuis longtemps. Mais même très très jeune, pour des tas de raisons, pour des raisons tout à fait personnelles, je suis très engagée sur ces sujets. Je crois que nous sommes le gouvernement, et c'est pas pour dire, parce que ce sujet devrait pas faire de polémique, quel que soit. C'est-à-dire que la vie humaine, sauver la vie d'une femme et ses enfants, ça n'est pas un sujet de clivage. Simplement, on a pris beaucoup de mesures. Ça ne sera jamais suffisant, parce que c'est un vrai, véritable fléau, c'est une vraie tragédie, les violences conjugales. Moi, j'avais mis en place les psychologues et les travailleurs sociaux, dans les commissariats, les gendarmeries. On avait mis de plus en plus de structures d'accueil pour ces femmes victimes de violences, sans oublier les enfants. Nous avons mis dans la loi, grâce à une proposition de loi communiste d'ailleurs, que nous avons appuyée, l'éviction du conjoint violent. Moi, je me souviens, on s'est battu, d'ailleurs, c'est un procureur, c'était le procureur de Douai, dans le Nord, qui avait expérimenté ça, de dire, quand il y a des violences, on fait sortir le conjoint violent.
Et pourtant, 133 mortes depuis le début de l'année.
Et pas la femme et les enfants. Donc, on a voulu changer. Aujourd'hui, je pense, à mon sens, que ce qui manque, c'est une politique pénale forte. Il faut demander à tous les procureurs qu'il n'y ait plus de main courante concernant les plaintes pour les violences conjugales. Il faut leur dire qu'aux audiences, il faut demander le mandat de dépôt, qu'il faut demander effectivement qu'il y ait des déferments interpellés, des déferments. Souvent, ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, pour les femmes victimes de violences, si elles considèrent que l'homme contre lequel elle va déposer plainte, il n'y aura pas de suite, il ne sera pas interpellé, il ne sera pas déféré, elle se dit, je vais peut-être vivre pire si je vais déposer plainte et qu'il revienne à la maison.
Ça, ça sert à quelque chose aujourd'hui de porter plainte, Rachida Dati. Il faut porter plainte.
Parce qu'on entend beaucoup, effectivement, de femmes qui disent que ça ne sert à rien. Toujours, la justice, c'est le dernier rempart de l'état de droit et de la protection pour ces femmes. Mais encore faut-il qu'il y ait une politique pénale ferme et claire s'agissant de ces violences conjugales. On ne peut pas laisser... C'est-à-dire que de la même manière, moi j'avais souhaité, on a eu un débat avec l'Ordre des médecins. C'est très important ce que je veux vous dire. Moi je disais souvent, les femmes... Moi je suis une enfant de la PMI. Les PMI, c'était des lieux où les femmes allaient, au prétexte de la pesée de leurs enfants, elles allaient se confier. Psychologues, médecins, des conseillères familiales dans ces endroits en disant... Je subis des violences, je peux pas aller au commissariat, j'ai peur. Et là, leur parole était recueillie et c'était signalé. J'avais demandé aux médecins que quand ils recevaient ces femmes, que les médecins puissent signaler à l'autorité judiciaire quand ils constataient ou des marques ou des comportements, y compris des peurs, des traumatismes.
C'est l'une des pistes, on le sait, Rachida Dati, qui est envisagée lors du Grenelle contre les violences, autoriser les personnels des urgences à dénoncer ces faits.
Les médecins disaient, nous avons un sujet de secret médical. Moi, je pense que quand c'est la vie des femmes, de leurs enfants, il faut pouvoir s'en délier auprès de l'autorité judiciaire. Parce que ces femmes-là, elles ne veulent pas aller au commissariat de police. Elles ont peur. Ce que je comprends, moi j'ai vécu des femmes, moi j'ai vécu des situations très personnelles où des femmes étaient frappées. Moi je me souviens d'une femme qui était enceinte, son conjoint l'a frappée, elle a avorté sur place, elle ne voulait pas déposer plainte, on l'a forcée à déposer plainte, elle a divorcé, elle est revenue avec ce conjoint. Parce qu'il y a une emprise psychologique qui est extrêmement forte et importante. L'aspect prise en charge psychologique est importante dans ces situations.
Rachida Dati, dans quelques instants, vous nous direz quelle maire vous serez à Paris si les Parisiennes et les Parisiens vous choisissent dans quelques mois. D'abord, le rappel de l'actualité à 8h41, Mélanie Delaunay.
Médecins, infirmiers, aides-soignantes, des milliers de soignants attendus dans les rues aujourd'hui partout en France. Les examens qui ne sont pas urgents reportés. Journée de grève et de manifestation pour demander plus de moyens pour l'hôpital public. Il faut que ce dialogue aboutisse à des réponses concrètes à la précarité étudiante. Sur France Info, la présidente de la FAGE appelle à réévaluer les montants des bourses et des aides au logement. Les organisations étudiantes reçues à partir de ce matin par le secrétaire d'État à la jeunesse deux jours après des rassemblements. La centrale nucléaire de Cruas va redémarrer au cours de la première quinzaine de décembre. EDF repousse l'échéance. Les réacteurs sont à l'arrêt depuis le tremblement de terre de lundi en Dromardèche. On va tout faire pour gagner devant notre public, donner un beau spectacle, promet Raphaël Varane, le défenseur des Bleus avant le match de ce soir contre la Moldavie. Une victoire et la France sera qualifiée pour l'Euro 2020 de football.
France Info. Et tout est plus clair.
Rachida Dati, la droite part divisée pour ces élections municipales à Paris. Le centre vous a lâché en cours de route. Est-ce que vous y allez pour limiter la casse?
Quel centre?
Le centre de l'UDI.
Bon, l'UDI, je crois qu'il n'existe pratiquement plus. Regardez aux dernières élections européennes. Donc, il ne nous a pas lâchés. Il n'a pas été avec nous. Le nouveau centre est avec nous.
Mais
l'UDI, déjà aux européennes, est allé tout seul. Je crois qu'il n'a même pas fait 2%. Donc voilà.
Vous y allez pour gagner ou vous y allez pour limiter la casse?
Est-ce que j'ai déjà mené un combat dans lequel je ne croyais pas? Moi, j'y vais pour gagner, bien sûr. Et moi, je suis convaincue qu'on peut gagner. Il n'y a pas de raison. Moi, j'entends, et certains qui ont peur, d'autres, non. Moi, j'y vais pour gagner, je suis déterminée. Vous savez, je vous pose toujours la question, quelles que soient vos convictions politiques, est-ce que quelqu'un est content de Paris? Je crois pas. Paris n'a jamais été... On a l'impression qu'on revient à New York des années 80. L'espace public est devenu de plus en plus dangereux. Vous savez qu'en un an...
Dans les années 80, il y avait quelques milliers d'homicides commis dans la rue, on n'en est pas là à Paris.
Vous savez qu'en un an, vous avez eu une explosion des cambriolages. Ça a augmenté de plus de 25%, pour ne pas dire 30%. Sur les atteintes sexuelles, on est à plus de 30%. C'est-à-dire que même l'espace public, on parlait des femmes, l'espace public parisien n'est plus sûr également pour les femmes. Les cambriolages, les vols à la tire ont explosé.
Et tout ça, c'est de la responsabilité de la maire de Paris?
Non, mais... Justement,
c'est pas des aujourd'hui,
il y a une sécurité, une part de la sécurité qui incombe à la ville de Paris. Mais aujourd'hui, la tranquillité publique à Paris, on ne sait plus qui en a la responsabilité. Parce qu'on dit, non mais c'est toi, non c'est pas moi, non mais c'est l'autre. On voit, les Parisiens sont dépossédés de leur espace public. Il est devenu de plus en plus dangereux. On parle de la saleté. Paris n'a jamais été aussi sale. La saleté contribue à l'insécurité. Donc aujourd'hui, le sujet de la sécurité est un sujet majeur à Paris. Quand on a ce qui fait office de police municipale, entre guillemets, à Paris, c'est une politique uniquement anti-voiture. Une politique anti-voiture n'est pas une politique de sécurité et une politique de tranquillité publique. Donc il est important de revoir l'organisation de la sécurité à Paris. Je l'ai dit depuis... plus d'un an aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut revoir l'organisation de la sécurité à Paris, notamment en l'articulant autour de trois acteurs. Parce que la police nationale à Paris, elle est essentiellement centrée sur une sécurité nationale, pas sur une sécurité des Parisiens. Et la police, enfin, ce qui fait aujourd'hui un substitut de police municipale, elle s'occupe uniquement... de chasser la voiture de Paris.
C'est-à-dire que vous voulez une police municipale armée qui procède à des interpellations dans Paris, etc. Ce qui est impossible.
On peut réorganiser la sécurité à Paris. Moi, j'ai regardé, j'ai consulté, de recentrer la police municipale sur ses missions essentielles. L'interpellation, les investigations.
La police nationale.
Sur la police municipale, il faudra revoir ses prérogatives. Si c'est une police municipale armée, ça c'est possible. On pourrait le faire dès maintenant. Et puis, la dédier à la délinquance du quotidien. Aujourd'hui, s'il y a un cambriolage, s'il y a quelqu'un qui représente la police municipale à Paris, on ne peut pas interpeller quelqu'un qui, effectivement, s'attaque à un appartement ou à une personne. Donc, il faudra la délinquance du quotidien, il faudra que ce soit dédié à la police municipale. Nous avons de la police nationale qui sont dédiés, ou des militaires dédiés à la sécurité de bâtiments publics ou de sites sensibles. On peut y mettre de la sécurité privée. Il faut que la sécurité à Paris s'organise autour de ces trois acteurs
principaux. La sécurité privée, c'est quoi? C'est-à-dire des sociétés de vigile, de gardiennage?
Quand on dit société de vigile, franchement...
C'est quoi la sécurité privée,
La sécurité privée, ce sont effectivement ce sont des forces de sécurité gérées par des entreprises avec des prérogatives de puissance publique. On peut leur donner des missions.
Quelles missions vous leur confiez, par exemple?
De surveillance de sites sensibles, de bâtiments publics.
Devant les bâtiments publics, vous mettez des sociétés privées de gardiennage.
Non, mais ça existe déjà aujourd'hui, c'est déjà possible.
Et ça coûtera combien à la mairie de Paris?
Justement, on est en train de l'évaluer, parce que si vous revoyez les missions, le budget, vous pouvez le revoir, vous pouvez le rééquilibrer. Vous savez que le budget de la préfecture de police, il est voté au Conseil de Paris. Donc on peut revoir tout cela. Ça se discute avec le préfet de police, avec effectivement la mairie de Paris, mais aussi avec les organisations représentatives de la sécurité privée.
Vous avez évoqué rapidement, Rachida Dati, la question des transports. Pour la première fois en 40 ans, on a appris hier que la part des transports en voiture individuelle a reculé, non pas à Paris, mais dans l'ensemble de la région parisienne, depuis 2010. Est-ce que sur ce point, vous félicitez Anne Hidalgo pour ce qu'elle a fait?
Mais elle a reculé pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus circuler. On peut plus circuler. Est-ce que pour autant, j'ai vu encore une étude et puis un article est sorti récemment sur la saturation des transports publics collectifs. Alors, enfin, tout le monde circule en trottinette et en skateboard. Donc il n'y a pas de famille, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'artisans, il n'y a pas
d'entrepreneurs. Ça signifie que vous reviendrez sur les mesures
non,
qui ont été prises.
Non, c'est pas ça. Mais
les voies sur berge, par exemple, Rachel Haiti, est-ce que vous voulez rouvrir des voies pour la circulation en voiture?
Est-ce que le plan de circulation aujourd'hui à Paris est satisfaisant? Non. Y compris pour les piétons. Il faut déjà pacifier la mobilité à Paris. Il faut que nous ayons un plan de circulation adapté pour les voitures, pour effectivement ce qu'on appelle une mobilité douce qui est anarchique, qui est totalement anarchique. Aujourd'hui, pour un piéton, il est dangereux pratiquement de marcher à Paris.
Je repose ma question sur les voitures, Rachel Haiti. Oui. Est-ce que vous parlez d'un plan de circulation adapté à la circulation en voiture? Est-ce que ça passe par la réouverture d'un certain nombre de voies qui sont aujourd'hui fermées
aux voitures?
Non, vous ne revenez pas sur les mesures prises.
Simplement,
Donc il n'y aura pas moins de bouchons.
Mais non, mais sur les voies sur berge, elles ont été fermées pour partie. Ça a commencé avec Bertrand Delanoë. Et ensuite, on a tout fermé, sans concertation, sans on a oublié qu'il y avait quand même des gens qui vivaient au-delà du périph' et qui venaient forcément travailler à Paris, qui sont aussi, qui permettent de faire vivre Paris. Enfin, Paris, c'est 102 km². C'est-à-dire qu'on va pas quand même boucler Paris et dire, vous allez marcher, on travaille plus, on vit plus.
Mais vous les rouvrez pas, ces voies.
Non, mais on peut réadapter certaines voies. Aujourd'hui, le fait d'avoir fermé ces voies sur berge et d'avoir congestionné Paris, Paris n'a jamais été autant pollué. Tout le nord et l'est parisien, qui sont des quartiers très populaires, ce sont des quartiers extrêmement pollués.
Sur un autre dossier, Rachel Haiti, qui concerne au premier chef les Parisiens, mais pas seulement d'ailleurs, c'est un dossier qui concerne l'ensemble des grandes métropoles, la question du logement et l'envol des prix du logement à Paris est spectaculaire. À Paris, l'encadrement des loyers a été rétabli depuis le 1er juillet. Est-ce que vous maintiendrez l'encadrement du prix des loyers?
Et la réponse dans une minute, si vous voulez bien. Quel suspense, Rachel Haiti, les 8h50 d'abord, et oui, Renaud l'avait oublié, le rappel des titres de l'actualité avec Mélanie Delaunay.
10 000 demandeurs d'emploi en plus, le taux de chômage en légère hausse de 0,1 point à 8,6% au troisième trimestre en France. Ce sont les chiffres de l'INSEE ce matin. Ils réclament un plan d'urgence. Tous ceux qui font l'hôpital public mobilisés partout en France après 8 mois de grève dans les urgences, journée de grève de manifestation pour réclamer plus de moyens, plus de personnel. La ministre de la Santé doit annoncer un plan de soutien d'ici la fin du mois. Grève aussi des agents de la finance publique aujourd'hui contre la fermeture de trésorerie et les suppressions de postes. C'est une épreuve pour les jeunes parents, la kiné respiratoire et ses manipulations impressionnantes pour soigner la bronchiolite des bébés. Désormais, ce n'est plus recommandé par la Haute Autorité de Santé, faute de preuves scientifiques de son efficacité. Et puis la neige et le verglas risquent de compliquer la circulation en Rhône-Alpes à partir de cet après-midi. 11 départements en vigilance orange à la neige, mais aussi aux fortes pluies qui sont attendues dans le sud-est.
France Info. Et tout est plus clair.
Rachida Dati, fin du suspense, reviendrez-vous sur l'encadrement des loyers à Paris?
Moi, j'entends les uns et les autres qui disent le problème de Paris, c'est les loyers qui sont très chers, l'immobilier qui est très cher. Et depuis Delanoë, on dit attention, on va vous faire baisser les loyers ou le prix de l'immobilier. C'est un leurre. Tous ceux qui disent ça, c'est faux. Ils ne vous feront pas de mesures miracles. Le sujet du loyer et de l'immobilier est un vrai sujet à Paris.
Donc on fait quoi si on n'encadre pas?
Attendez, ouais. Est-ce que l'encadrement a enrayé l'explosion de l'immobilier?
C'est difficile
à Paris
de juger. Il a été mis en place, suspendu et rétabli.
Oui, mais récemment, on sait que le budget parisien, pour l'essentiel, est alimenté par les droits de mutation. Donc, en tous les cas, le budget, l'exécutif municipal actuel est très content d'avoir ces recettes liées justement à la cherté de l'immobilier.
Lorsqu'il existait à Paris, l'encadrement des loyers, chez Haiti, il avait contribué à bloquer, à freiner l'envol des loyers. Et lorsqu'il a été supprimé temporairement, on a vu les conséquences. Ça ne sert à rien.
Non, c'est pas ça. C'est que l'impact n'a pas été aussi probant que cela. Ça n'est pas vrai.
Donc on supprime.
Aujourd'hui, non, mais vous êtes binaire. Je vous explique. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en disant oui, non, on a la congestion à Paris, une circulation, des embouteillages monstres, une pollution monstre, une insécurité monstre. Voilà, c'est oui, non. C'est pas oui, non.
Vous êtes plutôt en même temps.
Non, non. Paris, c'est, enfin, franchement, c'est des dossiers sur lesquels je travaille depuis un certain temps. Moi, j'ai un bilan dans le 7e arrondissement. Ça demande de l'expertise, ça demande de la concertation, chose que je fais. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le sujet des loyers de l'immobilier, c'est un sujet majeur à Paris. Mais ceux qui disent, d'un coup de baguette magique, je vais vous faire baisser les loyers, d'un coup de baguette magique, je vais faire baisser l'immobilier, c'est un leurre. Ils mentent aux Parisiennes et aux Parisiens. Moi, je souhaite maintenir les familles à Paris. C'est la sève de Paris. Si demain, de plus en plus de familles quittent Paris, ne serait-ce qu'à la dernière rentrée scolaire, il manquait 1400 enfants. Moi, je ne me résous pas à ce que les familles, les classes moyennes, y compris les classes supérieures, quittent Paris. Ils sont déjà en double peine avec des loyers très chers, et puis les services municipaux très chers. Donc moi, je ferai un geste fort sur l'ensemble des tarifs municipaux à Paris. Je ferai un geste très fort vis-à-vis des familles. Parce qu'on ne peut pas leur dire...
C'est-à-dire
sur les tarifs, tout ce qui concerne les tarifs municipaux.
Les cantines, les
loisirs,
crèches.
Oui. Les cantines, les crèches. C'est pour ça que les cantines...
Moi, vous les diminuez pour tout le monde, ces
tarifs? Pour tout le monde, bien sûr.
Y compris pour les foyers les plus aisés.
Mais parce que tout le monde est en double peine. Les loyers sont quand même chers. C'est un budget important.
Attendez, payer 7 euros par jour de cantine, pardon de vous interrompre, oui Renaud, si on gagne des millions et des millions, c'est pas forcément... C'est moins un drame. C'est 7 euros par jour, je crois, le maximum aujourd'hui à Paris.
Oui, mais quand vous voyez que Lyon, Nice, Bordeaux, maximum, c'est entre 3 et 4 euros, il n'y a pas de raison qu'à Paris, on ne soit pas dans ces tarifs-là. Donc ça, c'est une chose. Donc, je baisserai effectivement les tarifs des services municipaux. Sur le logement, il y a un vrai sujet. D'abord, c'est peut-être aussi pour ça que la droite a beaucoup perdu Paris depuis des années. On n'a pas vu une évolution sociologique à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, le logement social a augmenté de près de 70% à Paris. Donc, on a eu une évolution sociologique à Paris. On a 200 000 logements sociaux. Vous savez que de nombreux logements ne sont pas accessibles ou occupés tant ils sont dégradés. Vous avez des familles, quand on leur fait une proposition, ils ne veulent pas y aller parce que pas d'ascenseur, de l'insécurité, c'est sale, les portes sont cassées, les caves, je vous dis pas. Enfin, de la sécurité, un éclairage qui fonctionne pas. Et donc déjà, si on pouvait restaurer... Moi, je fais des bras de fer souvent avec les bailleurs sociaux parce qu'ils vous livrent des logements, puis après, ils s'en lavent les mains. Tout est dégradé, c'est plus leur sujet. Et donc, moi, je cite par exemple Paris Habitat, avec lequel j'ai eu des difficultés parce que on donne des logements à des familles et c'est dégradé, et le bailleur dit, c'est plus mon problème. Donc si déjà, on pouvait restaurer le parc social... sur le logement. Ça permettrait notamment à des familles de classe moyenne de pouvoir s'y loger. Et puis, sur la mesure logement, je suis en train d'expertiser une mesure importante sur le logement que j'annoncerai d'ici un mois ou deux.
Voilà. Alors, je vais tenter de pas être binaire sur ma question. C'est dommage, on a cru que vous alliez le dire là. Je vais tenter de pas être binaire sur la question d'Airbnb.
Parce qu'avant de dire les choses, c'est pour ça que sur la sécurité, sur l'écologie, sur la gouvernance, j'ai des propositions claires parce qu'on les a affinées, on les a travaillées. Sur le logement, je voudrais encore un peu l'affiner.
Est-ce que vous serez la candidate qui interdira Airbnb, les locations Airbnb à Paris?
De la même manière, Airbnb...
Qui participe à l'envolée des loyers et des prix.
Ça y participe. C'est pour ça que le contrôler, l'encadrer, c'est une bonne chose.
C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, il y a un nombre de nuitées maximum.
Oui, mais je pense qu'effectivement, il faudra... Moi, je vois pour un arrondissement sur le 7e arrondissement, Airbnb a fait beaucoup de mal, notamment aux petits hôteliers, au commerce de proximité. Et donc, il faudrait peut-être, effectivement, encore peut-être plus l'encadrer. Airbnb est un vrai sujet. Je prends, par exemple, sur les arrondissements du centre, sur l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, on a l'impression qu'on arrive là-bas, c'est devenu... Parce que la beauté de Paris, ce qui fait rêver Paris et ce qui fait rêver le monde entier quand vous parlez de Paris, c'est les identités de chaque arrondissement. Il n'y a pas d'uniformisation. On y vient. Paris s'uniformise, y compris dans chacun des arrondissements. Le 4e arrondissement, on a l'impression que c'est ville morte. Tout est pareil, tout s'uniformise. Et Airbnb a fait beaucoup de mal dans cet arrondissement. Donc il faudrait peut-être aussi revoir encore une mesure pour pouvoir mieux contrôler Airbnb, notamment dans ces arrondissements historiques et qui ont une identité forte.
Rachida Dati, votre nom est cité dans le cadre d'une enquête qui a été initiée par le Parquet National Financier. Votre bureau et votre domicile ont été perquisitionnés à la fin du mois d'octobre.
Cabinet d'avocat.
Oui, votre bureau, oui. Cette enquête, elle porte sur des contrats conclus par une filiale de Renault-Nissan. C'est en marge de l'affaire Carlos Ghosn.
Oui.
Est-ce que vous redoutez les conséquences de cette enquête et est-ce qu'elle peut peser sur le cours de votre candidature?
D'abord, moi, elle ne pèsera pas sur le cours de ma candidature. Cette enquête a été initiée pas du tout par le PNF au départ et ni par Renault. Je n'ai pas de plainte. Elle a été initiée par un avocat qui est issu du milieu Occident, qui a pris de manière totalement illégale, issu du milieu Occident.
Le groupuscule d'extrême droite des années 60.
Exactement, cet avocat, qui a pris comme cliente son épouse, ce qui est illégal, vous ne pouvez pas avoir comme cliente votre compagne. Ils ont acheté des actions à la veille d'une assemblée générale et ils ont déposé plainte quasiment le lendemain où effectivement j'ai annoncé ma candidature pour Paris. Je sais que c'est une manipulation, c'est une instrumentalisation de la justice.
De l'extrême droite, donc qui vient de l'extrême droite.
Je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas faire.
C'est une machination.
C'est tout. Vous le savez très bien, Monsieur Delis, parce qu'on s'était vu à cette époque et quand vous étiez au Nouvel Observateur, des tentatives de déstabilisation et des manœuvres contre moi, il y en a eu pas mal.
Donc, sur ma famille et sur moi.
Et ça n'a jamais abouti. Là, je ne laisserai pas faire de la même manière.
Ça veut dire que si jamais il devait y avoir une mise en examen, ce qui n'est pas probable, si on vous entend bien.
Non, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà. Je suis investie. C'est impossible. Je suis, effectivement, je fais ma campagne. Je ne laisserai pas les médias instrumentaliser la justice et encore moins, effectivement, j'allais dire des salopards, pouvoir, évidemment, tenter de me déstabiliser. Alors, encore une fois, on sait à peu près qui peut être à la manœuvre. Je ne laisserai pas faire. Voilà.
Merci à vous, merci. Rachida Dati. Dans deux minutes, il sera 9h sur France Info.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.